Europe.fr. Europe 1, Info.
13h, 14h.
Clélie Mathias.
Bonjour à tous, merci d'écouter Europe 1 Info et très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. On est ensemble jusqu'à 14h comme tous les jours pour de l'info et du débat. Tout de suite, le grand journal de la mi-journée. Dans l'actualité de ce lundi 19 janvier, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter après la collision entre deux trains dans le sud de l'Espagne. Au moins 39 morts selon les autorités qui évoquent un accident extrêmement étrange. C'est une réforme sociétale majeure. La légalisation d'une forme d'aide à mourir fait son retour au Sénat. Un débat qui soulève de nombreuses interrogations et inquiétudes. Reportage auprès des petites sœurs des pauvres qui accompagnent des patients en fin de vie. Un budget pour la France par 49.3 ou par ordonnance. Le choix devrait être annoncé en fin d'après-midi par Sébastien Lecornu à l'issue d'un conseil des ministres exceptionnel. Et puis, si vous avez très mal au ventre, peut-être souffrez-vous d'un ulcère à l'estomac. On en parle dans un quart d'heure avec Brigitte Millot dans sa chronique santé. Géraldine Hamon, bonjour.
Bonjour Clélie.
La météo, la tendance, un temps encore très agité au sud-est.
Hein. Exactement, les pluies restent en effet très abondantes sur le Languedoc-Roussillon et sur l'est de la Corse avec un vent qui souffle très fort en bord de mer. La Corse est en vigilance orange, pluie, inondation, ainsi que les Pyrénées orientales et l'Aude. L'Aude placée aussi avec l'Hérault et la Haute-Corse en vigilance orange pour crue. Côté température, il fera de 3 à 6 degrés en Alsace-Lorraine et en Franche-Comté, 9 à 12 degrés en général, jusqu'à 15 degrés sur le littoral méditerranéen. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Scène de chaos hier soir en Espagne après cette collision entre deux trains dans le sud du pays. La tragédie a fait pour le moment 39 morts, mais le bilan pourrait encore s'aggraver. Alexis Bourdon, bonjour.
Bonjour Clélie, bonjour à tous.
Que sait-on pour le moment au sujet de cet accident ?
Eh bien, la collision a eu lieu hier soir à 19h45 en Andalousie entre un train d'une compagnie privée Irio en direction de Madrid et un autre de la Renfe qui filait vers Malaga. L'un d'eux, qui transportait près de 300 voyageurs, aurait dévié de sa voie. Au total, 4 wagons ont été projeté hors des rails en raison du choc. Lors d'une conférence de presse, le ministre des Transports, Oscar Puente, n'a écarté aucune piste.
L'accident est extrêmement étrange. Il s'est produit sur une portion de voie rectiligne. Les experts ferroviaires présents aujourd'hui et ceux que nous avons pu consulter sont extrêmement perplexes. C'est très étrange, il est très difficile de l'expliquer pour le moment. Nous espérons que l'enquête nous permettra d'éclaircir les circonstances de l'accident.
Selon les médias espagnols, le train de la compagnie Irio, construit en 2022, avait passé sa dernière inspection jeudi dernier. Vous le disiez Clélie, le bilan provisoire fait état de 39 morts et de 123 blessés, dont 5 gravement. Le président de la Renfe a confirmé que les opérations d'évacuation pour trouver des rescapés se sont poursuivies toute la nuit et que désormais, tout le monde a été dégagé. Les corps peuvent être toujours bloqués néanmoins sous les décombres. De son côté, la Guardia Civil a ouvert plusieurs bureaux pour identifier les victimes grâce à leur ADN.
Merci beaucoup Alexis Bourdon pour Europe 1. Et sachez que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez doit se rendre sur place en début d'après-midi. Il sera suivi demain du roi et de la reine d'Espagne.
13h02 sur Europe 1, on en parlera dans la météo, mais l'ensemble des cours d'eau du département de l'Aude sont sur surveillance car un pic de crue est attendu cet après-midi.
Et les pluies se sont intensifiées dans l'Aude avec des inondations localisées. Aucune victime à signaler, mais une trentaine de routes coupées à la circulation dans le département. Les écoles sont fermées, les transports scolaires sont suspendus. Bonjour Charles Lullier.
Bonjour Clélie, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Narbonne où deux quartiers ont été évacués ces dernières heures.
Oui, depuis ce week-end, un millier de personnes a été évacuées. En fait, ce sont tous ceux qui, dans ces deux quartiers, sont en proie aux crues et habitent des logements de plein pied. Alors ce matin, beaucoup ont pu regagner leur domicile, mais il reste encore quelques sinistrés. Yolande, 89 ans, vit seule. Elle a dû passer la nuit dans un gymnase à l'abri.
J'ai vu comme tout le monde la pluie qui tombait sans arrêt. J'ai appelé les pompiers. On est venu me chercher et m'amener ici, au parc des expositions. J'ai passé la nuit ici. J'ai hâte de rentrer chez moi.
Alors, sauf que Yolande ne sait pas quand elle va rentrer chez elle, ni dans quel état elle va retrouver sa maison. Et ce qui n'est pas rassurant, c'est que la pluie ici continue de tomber sans discontinuer. Le fleuve principal pourrait entrer en crue d'ici cette fin d'après-midi, Clélie.
Merci beaucoup Charles Lullier à Narbonne pour Europe 1.
Une fête sportive gâchée par de nouvelles violences.
La finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a vu le Sénégal l'emporter 1-0 contre le Maroc, a été marquée par des heurts. Au moins 63 personnes en France ont été interpellées. Des scènes d'affrontements entre supporters des deux équipes et les forces de l'ordre mobilisées en nombre pour l'occasion. Jean-Baptiste Marty, 14 policiers ont été blessés.
Oui, selon un premier bilan, des forces de l'ordre visées par des tirs de mortier d'artifice dans les rues de la capitale. À Barbès, dans le quartier de Château-Rouge aussi, des incidents et de nombreuses interpellations, la plupart pour des faits de violence sur les forces de l'ordre, pour des refus d'obtempérer ou encore pour des outrages et des rébellions, des heurts à Paris mais aussi en petite couronne. À Provins, une cinquantaine de supporters ont incendié des poubelles et des sapins de Noël. À Mantes-la-Jolie, une bagarre a éclaté dans un bar entre fans sénégalais et fans marocains. L'un d'entre eux, le crâne en sang, a dû être transporté à l'hôpital. De nombreux débordements malgré le dispositif policier important déployé. Un arrêté préfectoral avait même été pris par le préfet de police de Paris, Patrice Faure, pour interdire tout rassemblement sur les Champs-Élysées. 168 personnes ont d'ailleurs été verbalisées à cette occasion.
13h05 sur Europe 1, c'est un débat sensible qui interpelle profondément les croyants.
Après avoir été repoussée, la proposition de loi sur la fin de vie est actuellement en débat au Sénat et sera examinée demain dans l'hémicycle. Elle soulève de nombreuses réticences, comme chez les Petites Sœurs des Pauvres par exemple. Cette congrégation, créée il y a près de 200 ans, a pour mission principale d'accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort naturelle. Cyril de la Morinerie s'est rendu à Versailles, dans l'un des EHPAD gérés par les Petites Sœurs des Pauvres.
Madame Limbourg ?
Oui.
Nous voilà.
Germaine, 94 ans, nous accueille le sourire aux lèvres dans sa chambre ouverte sur un jardin. Arrivée ici il y a 2 ans et demi pour y vivre les derniers moments de sa vie, elle ne comprend pas que l'on puisse peut-être bientôt légaliser en France l'aide à mourir.
La fin de vie ici, c'est une vie qui continue. On peut aller jusqu'à la fin de vie quand on est bien accompagné.
Pour vous, la vie est sacrée ?
Bien sûr.
Dans cet établissement tenu par les Petites Sœurs des Pauvres, l'équipe médicale veille jour et nuit sur les personnes âgées. Madeleine, aide-soignante, a vu de nombreux résidents reprendre goût à la vie.
Des fois, quand ça arrive que le résident dit « je veux partir, je suis fatigué », mais après, quand ils sont bien accompagnés, ils changent d'avis. Non, je pourrais jamais donner la mort. Jamais de la vie.
Et cette proposition de loi sur la fin de vie fait naître de vives inquiétudes à Sœur Marie-Christine, mère supérieure de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres à Versailles.
Elle nous inquiète parce qu'elle est assez coercitive. C'est difficile de trouver un sens pour accompagner la vie, pour que ça se termine comme ça, de façon aussi brutale. En tout cas, il faut qu'on fasse tout ce que nous pouvons pour que nous gardons notre... c'est une clause de conscience, tout simplement.
La congrégation des Petites Sœurs des Pauvres entend continuer sa mission, accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort naturelle dans le respect et la dignité.
13h07 sur Europe 1, dans un instant, la politique. Va-t-on enfin avoir un budget et avec quelle méthode? On devrait en savoir plus cet après-midi. Vous écoutez Kelly Mathias sur Europe 1.
13h, 14h,
Europe 1 Info.
Chantal Latsou, chef de la brigade d'intervention Akena, que se passe-t-il, monsieur?
Je voulais m'équiper d'une pergola et on m'a clairement dit de m'adresser à vous parce que...
Hop, hop, j'ai compris, vous avez bien fait de m'appeler aujourd'hui parce qu'après ça aurait été trop tard. Les vérandas, les pergolas, les carports, c'est maintenant sur akena.com.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas!
Vos déplacements professionnels ne devraient jamais être un casse-tête. Avec Selectour Affaires, le voyage d'affaires devient un levier de performance. Nous construisons avec vous une politique voyage sur mesure. Coût optimisé, empreinte carbone maîtrisée, sécurité et bien-être des voyageurs. Des consultants dédiés vous accompagnent à chaque étape, de la PME au grand compte. Nos solutions s'adaptent à vos besoins. Selectour Affaires, 50 ans d'expertise au service de vos déplacements professionnels. Rendez-vous sur selectour-affaires.com.
Joyeux anniversaire!
On l'a déjà fêté hier.
Oui, mais chez Caseo, l'anniversaire dure 4 jours.
4 jours, 4 cadeaux. Fenêtres, cuisine, dressing et pergola.
Carrément. Pour les travaux et la réno, il y a Caseo.
Caseo, vos projets bien encadrés. Menuiserie, cuisine, véranda. Les 4 jours anniversaire Caseo, c'est jusqu'à moins 40% sur votre projet. Conditions et dates sur caseo.fr.
Lorsque vous voyagez avec Cathay Pacific, nous ne perdons jamais de vue la qualité de votre expérience. Vous n'aurez donc pas de compromis à faire lorsque vous profitez de nos offres. Bénéficiez de tarifs réduits sur nos destinations Asie et Australie. Les offres Cathay Pacific, allez à l'essentiel.
13h, 14h, Europe 1 Info.
Il est 13h08 sur Europe 1, la suite du journal de Kelly Mathias avec la politique. La France devrait bientôt avoir un budget, Kelly.
Après les annonces de Sébastien Lecornu, ce week-end, Emmanuel Macron réunit cet après-midi un conseil des ministres exceptionnel pour permettre de déclencher l'article 49.3 ou les ordonnances, Alexis de la Fontaine.
Oui, Sébastien Lecornu prendra la parole à l'issue de ce Conseil des ministres et devrait annoncer sa décision. Selon les informations d'Europe 1, la piste privilégiée reste le 49-3, une solution poussée en coulisses par Emmanuel Macron. En revanche, cette hypothèse est rejetée par l'opinion publique. 59% des Français s'opposent à cette hypothèse. Idem au Rassemblement national et à la France insoumise qui déposeront une motion de censure. Mais le Parti socialiste pourrait ne pas la voter, annonce Olivier Faure sur TF1.
La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre.
Les annonces du Premier ministre nous permettent de ne pas censurer, renchérit Boris Vallot. Si le soutien des socialistes semble acquis, Sébastien Lecornu doit encore obtenir celui des Républicains. Et malgré une hausse des impôts, notamment sur les sociétés, et une augmentation des dépenses de l'État, pourtant deux lignes rouges présentées par la droite, le groupe de Laurent Wauquiez devrait s'abstenir de voter la censure.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et puis en ce moment, Emmanuel Macron réunit un conseil de défense et de sécurité nationale sur la situation internationale et plus particulièrement sur la question de la Syrie, de l'Iran et du Groenland. À ce propos, la guerre commerciale est relancée entre l'Europe et les États-Unis. Alors que les 27 s'opposent à sa volonté d'annexer le Groenland, le président américain a déchiré l'accord commercial sur les importations européennes. Donald Trump menace désormais 8 pays, dont la France, d'une première surtaxe de 10% dès le 1er février. Une menace à laquelle Emmanuel Macron s'est empressé de réagir en annonçant son intention de demander l'activation du bazooka commercial. Barthélémy Philippe, expliquez-nous.
Eh bien, l'instrument vise à dissuader les pays qui exercent des pressions commerciales contre l'Union à des fins politiques, comme c'est le cas avec le Groenland. Il ne sera activé qu'en dernier ressort si Donald Trump applique les surtaxes et qu'une majorité qualifiée du Conseil, soit 15 pays de l'Union, se prononce pour. Dès lors, une phase de médiation s'ouvrira avec les États-Unis qui auront le choix, renoncer aux surtaxes ou s'exposer à de lourdes ripostes, comme l'explique l'économiste Antoine Bouet.
La première, ce serait certainement des droits de douane de 15% sur 92 milliards de produits importés des États-Unis. On peut interdire les entreprises américaines d'accès aux marchés financiers européens ou aux marchés publics européens.
L'instrument anti-coercition n'est pas vraiment fait pour être utilisé, mais plutôt pour faire plier l'adversaire par crainte des représailles. C'est le scénario privilégié par Bruxelles, tant l'escalade des tensions serait dramatique. Pour citer un exemple, les États-Unis peuvent annihiler une partie des capacités militaires européennes en désactivant les fonctions clés des avions de chasse F-35, dont l'UE possède de très nombreux exemplaires.
Amis, parents, armez-vous de patience.
À partir d'aujourd'hui, les lycéens peuvent formuler leurs vœux d'orientation sur la plateforme Parcoursup. Alors, pour être sûr d'obtenir la formation qui leur convient le mieux, les lycéens sont nombreux à mettre en place des stratégies et ils sont souvent épaulés par leur famille. Reportage de Laura Legault avec un lycéen qui vit à Villepreux, dans les Yvelines.
Sur une feuille, Nicolas a écrit tous ses vœux de formation par ordre de préférence. Le lycéen veut devenir ingénieur.
Je pense que je vais m'orienter plutôt vers les prépas ingénieurs. J'espère avoir les meilleures prépas possibles.
Avec un bon dossier et une moyenne générale de 16, Nicolas est confiant, mais il préfère assurer ses arrières.
Des prépas sélectives et d'autres un peu moins. C'est ce qu'on nous a préconisé au lycée de faire, de mettre quand même des choix qu'on est sûr d'avoir.
Ses parents ont déjà accompagné leurs deux aînés pendant cette période stressante. Alors ils poussent aussi Nicolas à faire des vœux moins sélectifs, comme des licences d'économie à l'université.
Il vaut mieux, oui, assurer ses arrières. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Les algorithmes de Parcoursup peuvent être un peu particuliers et puis il n'est pas à l'abri d'un échec.
Mais Nicolas reste serein, même si le sujet est très souvent abordé en famille.
Moi, je trouve qu'ils en font un peu trop.
Alors oui, ça revient très régulièrement. C'est surtout mon mari qui va aborder le sujet jusqu'à ce que les vœux soient terminés dans Parcoursup.
Désormais, le lycéen a 8 semaines pour formuler ses vœux et il faudra attendre le 2 juin pour recevoir les premières réponses d'admission.
La bourse, Claire Lemaître, bonjour.
Bonjour Clélie.
Donald Trump fait encore trembler les marchés avec ses menaces de taxes commerciales.
Oui, le CAC 40 chute, repli de 1,6% face aux menaces de droits de douane du président américain. La France est dans le viseur et les entreprises qui exportent sont donc en première ligne. Le luxe par exemple, LVMH perd 4%, moins 3% pour Hermès. Les spiritueux aussi sont concernés, Rémy Cointreau lâche 4%, moins 2,5% pour Pernod Ricard. C'est du rouge aussi aussi pour l'automobile, du rouge pour les banques, du rouge pour la tech. Il y a un secteur qui monte, comme souvent sur fond de tensions géopolitiques, c'est la défense, avec Dassault Aviation, par exemple, qui bondit de 2,5%, plus 1,5% pour Thales. Tous les marchés européens sont en baisse à la mi-séance. Francfort perd 1,4%, moins 0,6% pour Londres, moins 1,6% à Paris pour le CAC 40, 8126 points.
Les conséquences sont directes. Merci beaucoup Claire Lemaître. La bourse sur Europe 1, c'est avec boursier.com. Tout de suite, la météo.
La météo avec Avenir Rénovation, votre partenaire confiance pour tous vos travaux. Avenir-rénovation.fr.
Géraldine, nous le disions dans le journal, vigilance, l'épisode méditerranéen se poursuit.
Exactement, les pluies s'intensifient et tombent en continu sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. On attend aujourd'hui des cumuls compris entre 80 et 150 mm d'eau localement sur une large franc est des deux départements qui sont placés en vigilance orange pour pluie inondation. L'Aude qui est aussi en vigilance orange pour crue, ainsi que l'Hérault et la Haute-Corse. La Corse qui est également en vigilance orange pour pluie inondation, où le temps est aussi très pluvieux et où de forts cumuls de précipitations sont encore attendues. Le vent souffle aussi jusqu'à 90 km/h sur le littoral varois, les Cap-Corses, le littoral du Roussillon, alors qu'ailleurs, la grisaille persiste des Ardennes à la plaine d'Alsace, du plateau de Langres vers le Val-de-Saône. Plus à l'ouest, les nuages dominent largement, occasionnant quelques pluies faibles tout au long de cet après-midi. Pour les températures, il fera 5 degrés à Metz, 6 à Verdun, 7 à Charleville-Mézières, 9 à Aurillac-Lyon et Annecy, 10 à Brest, 11 à Lille, Rennes et La Rochelle, 12 à Quimper, Paris et Bordeaux, 13 à Caen et Montpellier, 14 à Nîmes, 15 à Marseille et Toulon, jusqu'à 16 degrés à Nice, Ajaccio et Bastia. Alors demain, l'épisode méditerranéen se poursuit avec des pluies sur l'Occitanie et le Roussillon. Le temps restera encore très pluvieux en Corse tout au long de la journée, occasionnant toujours de forts cumuls de précipitations sur l'est de l'île. Et à l'est, les grisailles matinales laisseront place aux éclaircies, alors qu'à l'ouest, les nuages resteront présents en attendant l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui arrivera par le nord-ouest, donnant de la pluie et du vent en Bretagne.
Merci beaucoup Géraldine. Ouais, vous nous dites ça avec un grand sourire.
Bah, il faut.
Merci en tout cas.
13h, 14h, Europe 1 Info.
Et à 13h16, nous retrouvons le docteur Brigitte Millot. C'est la rubrique Santé du jour, Clélie.
Bonjour docteur Millot.
Bonjour.
Alors, on a tous déjà eu mal à l'estomac. Parfois, c'est un repas trop copieux, un peu de stress, et ça passe. Mais quand cette douleur revient toujours au même endroit, vous nous dites qu'il peut s'agir d'un ulcère. Expliquez-nous.
Alors oui, pour commencer, on va rappeler qu'une personne sur 10 souffrira d'un ulcère dans sa vie. Quand je dis d'un ulcère, en fait, il existe deux types d'ulcères, celui de l'estomac et celui du duodénum. C'est la petite partie d'intestin qui suit juste après l'estomac. Un ulcère, c'est comme une plaie, comme un aphte. Et donc, ça fait mal. Et imaginez une plaie dans un environnement acide comme l'estomac, ça fait très, très mal. La douleur se trouve au creux de l'estomac et elle est rythmée par les repas. Je m'explique. Le fait de manger a tendance à soulager la douleur. En revanche, elle peut s'intensifier après le repas. Parce qu'en fait, l'estomac est beaucoup plus acide à jeun que lorsqu'il y a des aliments. Alors, on a longtemps cru que l'ulcère était lié uniquement au stress. Je crois même avoir dit à certains patients « changer de boulot » ou « changer de conjoint ». Aujourd'hui, les causes sont bien identifiées. La principale est une bactérie, Helicobacter pylori, présente chez environ un tiers des adultes. L'autre grande cause, ce sont les anti-inflammatoires et l'aspirine qui fragilisent la protection naturelle, le mucus de l'estomac. Le tabac et l'alcool jouent aussi un rôle aggravant. La fibroscopie est essentielle pour poser le diagnostic et faire des prélèvements. La bonne nouvelle est que ça se soigne, et ça se soigne très bien. On va conseiller d'abord de diminuer l'alcool et le tabac. On va donner des médicaments qui vont lutter contre l'acidité, car c'est l'acidité sur la muqueuse à vif qui est douloureuse. Ces traitements se terminent souvent par OL, oméprazole, tout ça, vous avez sûrement déjà entendu parler. Ou alors, si c'est la bactérie, eh bien 15 jours d'antibiotiques suffiront. Les antiacides sont très efficaces, mais il est déconseillé de les prendre en continu sur une longue période. Car ne l'oublions pas, l'acidité est là pour broyer tous les aliments qui arrivent, mais elle est là aussi pour nous défendre contre les microbes. Donc il ne faut pas donner ces traitements en continu. Pour conclure, devant une douleur persistante au niveau de l'estomac, il ne faut pas attendre, car consulter, c'est souvent éviter les complications.
Comme toujours d'ailleurs. Merci beaucoup docteur Millot. On se retrouve demain à 13h15 comme d'habitude dans Europe 1 Info. À présent, il est l'heure de passer à notre débat. C'est un texte qui ne laisse personne indifférent et qui dépasse même les clivages politiques. Les textes sur la fin de vie, soins palliatifs et aide à mourir doivent désormais être examinés à partir de demain dans l'hémicycle du Sénat avant un vote solennel prévu le 28 janvier puis l'Assemblée nationale en février. Ces textes soulèvent de nombreuses questions. On en parle dans un instant avec nos chroniqueurs, Yvan Rioufol, Thomas Bonnet dans Europe 1 Info.
Il est 13h19, vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1.
13h, 14h, Europe 1 Info.
Jusqu'au 28 janvier, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France.
Wow. Hey, taxi.
Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde, par exemple New York, à partir de 449 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France.
Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 9 au 22 mars 2026 et du 7 septembre au 11 octobre 2026.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, hein, elle n'est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non ? Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Leclerc, bonjour.
Vos pommes gala françaises, elles sont vraiment...
délicieuses, pas chères.
Oui, mais surtout, vraiment...
ah, vraiment craquantes. Et du 20 au 24 janvier, les pommes gala françaises de verger éco-responsables sont à 1,29€ le kilo. Et il y a 10% de tickets Leclerc en plus sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 170-200 grammes, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le code de la mutualité.
Professionnels, vous avez besoin d'un utilitaire pratique et abordable ? Découvrez Citroën Berlingovan à seulement 159 € hors taxes par mois. Modulable et économique, il s'adapte à toutes vos missions au quotidien. Il est disponible immédiatement en stock limité et bénéficie de jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Découvrez également Berlingovan XTR, notre version suréquipée. Rendez-vous vite dans votre point de vente Citroën.
Citroën.
Crédit bail 60 mois, 100 000 km. Premier loyer de 5 700 € hors taxes. Offre aux professionnels jusqu'au 31 janvier. Si acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr.
13h, 14h, Europe 1 Info.
13h21 sur Europe 1, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, Clélie, pour débattre de l'actualité de ce lundi 19 janvier. Avec vous, le journaliste politique à CNews, Thomas Bonnet, et le journaliste Yvan Rioufol.
Bienvenue, bonjour à tous les deux.
Bonjour Clélie, bonjour Jérémy, bonjour à tous.
Et ravi de vous accueillir dans le studio d'Europe 1 Info. On va commencer par ce sujet sensible. Il y avait plusieurs milliers d'opposants hier à la future loi fin de vie. L'examen reprend demain au Sénat dans l'hémicycle. Beaucoup parlent d'un basculement civilisationnel. Alors, pour rappel, ce texte ouvre la possibilité d'une mort assistée non seulement aux personnes en fin de vie, mais aussi à celles qui se trouvent en phase avancée d'une maladie. Ce texte organise le suicide assisté ou l'euthanasie, ça dépend si c'est lui-même qui s'injecte cette dose ou un professionnel, et consacre un droit à celui de l'accès à l'aide à mourir. Je vous propose d'écouter Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale et membre de l'Académie de médecine. Il était au micro de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1.
Aujourd'hui, ce qui va se présenter dans le débat au Sénat, c'est pour ou contre l'euthanasie. Quand on dit il y a un encadrement, effectivement, les sénateurs ont voulu mettre un peu plus de prudence. Mais quand on sait que toutes les prudences qui avaient été évoquées, y compris à l'Assemblée nationale, ont été révoquées, c'est-à-dire tous les amendements qui allaient dans le sens d'un arrangement qui permette vraiment de contrôler les choses, avec par exemple l'approche spécifique des maladies psychiatriques, avec le délit d'entrave. Aujourd'hui, si une personne fait une tentative de suicide et puis qu'une personne, un médecin ou un soignant, l'incite à plutôt aller dans le sens de la vie, il peut être mis en cause. Je vis auprès de personnes en situation de vulnérabilité et qui attendent de notre société une réponse. Et depuis des années, plus on évolue, plus je comprends que la réponse, c'est certainement pas l'euthanasie, c'est-à-dire vous n'avez plus votre place parmi nous.
Alors, évidemment, chacun a un sujet, un avis très personnel sur le sujet. Yvan Rioufol, est-ce que, à votre avis, ce texte va trop loin ?
Ce texte a été mal présenté parce que derrière le droit à mourir, maintenant on voit qu'il y a cette perspective horrible du devoir de mourir. C'est-à-dire qu'il y a des impératifs économiques qui sont derrière cette loi qui a été présentée comme une loi humaniste. Et d'ailleurs, les mots sont faux, les mots puent, comme avait dit Nietzsche parlant du journalisme dans le siècle qui allait suivre. C'est-à-dire que cette loi humaniste est une loi qui est absolument inhumaine, si, ne serait-ce que pour vous en convaincre, de voir la jubilation avec laquelle ce projet de loi sur le suicide assisté est accueilli par les mutuelles et par toutes les complémentaires santé. Parce que elle voit très bien quel est l'intérêt économique, en effet, d'écourter la vie des inutiles, des vieux, de ceux qui coûtent cher. Il y avait une étude de la Fondation qui montrait que les vieux, plus de 80 ans, je crois me souvenir, coûtaient par an à la collectivité et aux mutuelles 8 000 euros par an. Tandis qu'un homme de moins de 60 ans coûtait 1500 euros par an. Donc on voit déjà qu'il y a un aspect économique.
Je ne sais pas si elles sont de là à se réjouir et à se frotter les mains.
Elles se frottent les mains, effectivement. Elles applaudissent en tout cas, donc elles s'en réjouissent, elles applaudissent à cette législation qui permettrait d'écourter les vies. Et donc on est d'abord dans cette horreur qui vient violer le décalogue, l'un des concepts du décalogue qui dit tu ne tueras point. C'est quand même un impératif moral qui devrait nous ébranler. Et puis j'ai été très ébranlé également d'apprendre que dans ce délit d'entrave qui a été évoqué et qui punit de 2 ans de prison et d'une forte amende, je ne sais plus de combien d'euros, qui punirait toutes les associations religieuses, les petites sœurs des pauvres par exemple.
Oui, il y avait un reportage dans le journal.
Mais oui, mais c'est très important à comprendre, c'est qu'elles aussi, si elles voulaient venir en aide à des personnes qui n'ont pas envie de mourir, seraient hors la loi. Donc c'est une aberration, et je ne comprends pas que le Sénat, qui est présumé être plus responsable et moins imprégné de l'air du temps, n'ait pas vu ces dérives-là et, au prétexte d'avoir apporté quelques garde-fous, garde quand même à accepter ce principe de l'aide active à mourir.
Et Thomas Bonnet, est-ce que vous parleriez-vous d'un basculement civilisationnel, comme on a pu l'entendre hier, notamment dans les manifestations ?
Oui, indéniablement, c'est une rupture avec ce qui a fait notre civilisation, une rupture anthropologique, on peut le dire aussi. Et moi, je pense qu'en effet, là où c'est très important, chacun a le droit d'avoir sa sensibilité sur ce sujet. On a tous des histoires personnelles qui nous font avoir une approche différente de ces choses-là. Ce que je souhaite en tout cas, avant tout, c'est que le débat soit correctement posé. Et Yvan a parfaitement raison. La dénomination des choses est très importante. Quand on parle d'aide à mourir, quand on parle de loi de fraternité, je pense qu'on est à côté du sujet. À mon avis, il faut présenter aux Français les choses telles qu'elles existeraient en cas d'adoption de cette loi. Intéressons-nous aussi aux précédents dans d'autres pays. Comparons. Mmh. Je regardais par exemple un excellent article dans le JDD sur ce qui se passe au Québec. Mmh. On constate une augmentation accrue vraiment du nombre de décès liés à cette euthanasie qui a été adoptée là-bas. On constate aussi que les personnes qui recourent à l'euthanasie se disent souvent, elles se vivent comme un fardeau pour leurs proches, il y a un grand sentiment de solitude. Donc en effet, moi j'ai très peur des dérives que peut engendrer cette loi. Le débat doit être apaisé, mais surtout avec des garde-fous. Le délit d'entrave, par exemple, c'est absolument inacceptable. Alors ça a été retiré au Sénat, le texte va revenir à l'Assemblée, on verra si ce délit d'entrave fera son retour.
Yvan, de manière très courte.
D'autant qu'il y a une alternative qui est celui des soins palliatifs. Quand dans les sondages, et le sondage de la Fondapol dernièrement le montrait, que vous présentez aux patients cette alternative du soin palliatif, c'est-à-dire c'est de permettre de mourir sans douleur, mais en s'éteignant doucement dans son sommeil, eh bien les Français préfèrent cette solution-là. Hors des soins palliatifs, il en manque. Il y a 21 départements qui en manquent et vous avez aujourd'hui 500 personnes qui meurent tous les jours d'absence de soins palliatifs et donc effectivement qui pourraient réclamer, elles, une aide à mourir. Mais effectivement, ce sont les aspects économiques, me semble-t-il, permettent d'écarter cette hypothèse qui est une hypothèse, me semble-t-il, anti-civilisationnelle.
On va suivre évidemment les débats qui auront lieu au Sénat demain dans l'hémicycle et puis bien sûr après à l'Assemblée nationale. On reste ensemble, on aura le choix de la méthode cet après-midi pour donner à la France un budget. Mais quel budget ? Tout ça pour ça ? Bon, on en parlera. Et puis, que faire face aux ambitions de Donald Trump ? Riposter, accepter, bras de fer avec notre ancien allié et partenaire au sujet du Groenland, entre autres, Yvan Rioufol, Thomas Bonnet. On est ensemble pour encore une demi-heure.
Il est 13h38, à tout de suite avec Lévi Mathias sur Europe 1.
13h, 14h.
Europe 1 Info.
Bonjour, c'est Pascal Pro. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Parce que ce qui compte, c'est vous.
Pascal Pro et vous, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Europe 1. Europe 1.
la radio libre.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Aircross à partir de 199 € par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2 500 €, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Choisissez votre destination et nous irons ensemble par la mer. N'attendez plus et embarquez avec CFC Croisières pour des vacances d'exception, tout en profitant du calme et du confort d'un navire à taille humaine. Terre en vue avec CFC Croisières. En ce moment, cédez à l'offre l'appel du large, réservé pour vous, et le deuxième passager est à moins 50%. Offre soumise à condition. Plus d'informations au 0800 03 03 03, service et appel gratuit, et sur cfc-croisière.fr.
Leclerc, bonjour.
Allô, rassurez-moi, le gel douche Ushuaïa, il est bien en promo, c'est pour une urgence?
Oui, tout à fait, mais vous m'inquiétez, c'est quoi l'urgence?
Vous voyez ce moment où vous êtes sous la douche et vous réalisez qu'il n'y a plus de gel douche?
Aïe, oui, on a tous connu ça.
Moi, c'est maintenant.
Alors séchez-vous vite et venez nous voir. Du 20 au 31 janvier pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un gel douche Ushuaïa, le deuxième est à moins 80%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, Groupama est là. Si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous.
Groupama.
Groupama. Toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Et vous, vous n'allez pas encore vos yeux?
Mais on est à la radio.
Bon, alors, vous n'allez pas encore vos oreilles.
Chez Poltron et Sofa, ce sont les super soldes en or, avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltron et Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Europe 1, le journal permanent.
13h31 sur Europe 1, toute l'actualité. Clélie Mathias.
Emmanuel Macron réunit un conseil de défense sur la situation internationale. Groenland, Syrie, Iran sont au menu de cette réunion entre chefs de l'État, les chefs militaires et les ministres concernés. Un sommet extraordinaire des dirigeants européens se tiendra jeudi soir à Bruxelles afin d'évoquer les menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane. Le budget 2026, deux options pour Sébastien Lecornu, recourir au 49-3 ou passer par des ordonnances. Un conseil des ministres se tient en fin d'après-midi. Le premier ministre prendra ensuite la parole. Après la collision en Espagne qui a fait 39 morts et 123 blessés, on apprend ce matin que le train Irio, construit en 2022, a passé sa dernière inspection jeudi dernier. Les experts sont extrêmement surpris par les circonstances de l'accident, a insisté le ministre des Transports, Oscar Puente. La grève au Louvre, le musée de nouveau fermé ce lundi. Depuis ses débuts le 15 décembre, la mobilisation d'une partie des salariés pour de meilleures conditions de travail a contraint le musée, le plus visité au monde, à garder deux fois ses portes closes et à trois reprises à n'ouvrir que partiellement. Les intempéries dans l'Aude, les pluies s'intensifient, mais pas de débordement important de cours d'eau dans la région de Narbonne, où des habitants ont évacué leur domicile de façon préventive. Cinq départements du sud de la France sont en vigilance orange, crue et inondation. Le président de la FIFA dénonce des scènes inacceptables au lendemain de la finale chaotique de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par le Sénégal face au Maroc 1-0. Le match a été émaillé de violences en région parisienne. Selon les informations d'Europe 1, au moins 11 policiers ont été blessés à Paris en petite couronne. 25 supporters ont été interpellés, dont 17 dans la capitale, indiquent plusieurs sources policières.
13h, 14h, Europe 1 Info.
La suite avec vous, Clélie Mathias, à 13h32 sur Europe 1 et vos deux chroniqueurs, Thomas Bonnet et Yvan Rioufol.
On va commencer évidemment par le budget. Je le disais dans le journal permanent, un conseil des ministres exceptionnel cet après-midi. Sébastien Lecornu qui va prendre la parole en sortie de ce conseil des ministres. Alors, normalement, on devrait avoir la réponse sur la méthode pour faire passer ce budget. 49-3 ou ordonnance? Écoutez Amélie de Montchalin, ministre des Comptes Publics. Elle s'est dit plutôt favorable aux ordonnances plutôt qu'au 49-3. Elle était sur BFM TV ce matin.
Le 49-3, c'est un chemin assez périlleux, puisque s'il ne se passe pas bien, à la fin, vous n'avez ni budget, mais vous n'avez même plus de gouvernement pour reproposer un budget. Donc, vous n'avez rien. Et moi, je ne peux pas laisser mon pays s'engager, vous voyez, dans une aventure en disant, bon, on y va. Donc, ce qui se joue, sinon, c'est les ordonnances. Les ordonnances, c'est un autre système. C'est un système qui vous dit, Au moins, vous avez un budget. Peut-être vous n'avez plus de gouvernement, mais au moins, les armées ont leur budget. Au moins, ce budget, tel qu'il serait appliqué, ne plairait à personne. Il devrait être modifié, peut-être déjà par un budget rectificatif, mais au moins, vous auriez une base par rapport à Donald Trump et au reste du monde. On est une voix crédible.
Alors voilà, Méline Bonchalin qui a un petit peu clarifié et expliqué le choix, donc ordonnance 49.3. Thomas Bonnet, allez, si on décrypte un peu politiquement, parce que forcément Méline Bonchalin fait partie du gouvernement, quels sont les avantages de l'un ou de l'autre pour ces méthodes?
Ça a été bien expliqué par la ministre des Comptes Publics. Le 49.3, vous prenez le risque, vous exposez quand vous êtes le gouvernement à une motion de censure, et alors vous êtes renversé, c'est vrai, et en plus, il n'y a pas de budget. Donc ça repousse, et on recommencerait à zéro. Je crois que les Français ont envie de tout, sauf qu'on recommence le débat budgétaire à zéro. Ensuite, il y a les ordonnances.
Les Français, pas que d'ailleurs.
Je crois que nous, on peut se mettre avec.
Les députés aussi.
Et après, donc, vous avez les ordonnances, qui là, en effet, vous protègent du fait de ne pas avoir de budget. En revanche, ça peut clairement devenir un casus belli pour les oppositions, et là, vous pouvez être plus probablement renversé. Ce qui se passe, en fait, c'est que c'est un...
Oui, décryptez-nous, parce que là, on a compris, maintenant.
On a eu une très belle chorégraphie ce week-end. Vous avez eu Sébastien Lecornu, vendredi, qui a parlé à la télévision pour expliquer où il en était dans les négociations budgétaires. La feuille de route s'est dessinée petit à petit. Et puis, dimanche soir, Boris Vallot, chef de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale, a pris la parole, a pris la plume dans Le Parisien pour répondre aux questions et pour dire... La non-censure est désormais envisageable. C'était une façon de dire que effectivement le PS avait obtenu gain de cause. Et comment ? Puisque le budget tel qu'il nous est présenté est une véritable fabrication socialiste. Vous avez par exemple une surtaxe sur les grandes entreprises à hauteur de 8 milliards d'euros. Ça concerne 400 entreprises, c'est pas rien du tout. Vous avez également les impôts de production qui devaient être baissés, qui ne le seront pas. Donc en fait, si je devais résumer, le gouvernement au cours du week-end a acheté la non-censure du Parti Socialiste avec ces mesures-là. J'ajouterai dans ces mesures la suspension de la réforme des retraites qui a déjà été entérinée dans le budget de la Sécurité sociale.
Oui, il y avait d'autres déjà.
Donc voilà, on a une co-construction de ce budget entre les macronistes et les socialistes depuis le début. On a mis 4 mois, je pense qu'on aurait pu mettre un peu moins de temps. On a désormais plus ou moins la certitude que le PS ne censurera pas. Et donc ça passe, ça passera. Il y a 3 motions de censure, enfin... 349 qui vont être déposés, qui vont être activés, le volet recettes, le volet dépenses et le texte entier. Et le gouvernement devrait normalement, sauf surprise, on ne sait jamais, mais devrait survivre à ces motions de censure.
Alors le gouvernement devrait survivre, mais la France, j'allais dire, non mais économiquement, le gouvernement surcontient dans la ligne des 5%.
Oui, alors je crois qu'il table sur 4,9%, c'est-à-dire que le moindre dérapage, moindre dérive, vous allez dépasser 5%. Et en plus, je ne sais pas si on peut se satisfaire de ce cantonné, si vous voulez, à 4%, 4,9% de déficit, ça reste énorme. Surtout quand on compare avec nos voisins européens qui ont eu la crise Covid comme nous, qui ont eu des difficultés internationales comme nous, mais qui s'en sortent beaucoup mieux que nous. Et c'est ça aussi qu'il est important de rappeler, c'est que notre dérive budgétaire, elle est majeure en France, notamment par rapport à nos voisins européens.
Et ça compte surtout en ce moment de menaces et de tensions géopolitiques. Il faut pouvoir être souverain, notamment d'un point de vue économique. C'est aussi important, on va y revenir d'ailleurs, sur tout ce sujet. Yvan Rioufol, je voudrais avoir votre regard sur ce budget. Je vous vois sourire.
Non, c'est très intéressant, parce que là, on est vraiment dans l'illustration de ce qu'est la crise de la politique, la crise du système, la crise de la démocratie. Nous voyons que c'est un parti minoritaire, le Parti Socialiste, qui a influé, qui a imposé ses desiderata au gouvernement. Nous voyons que le gouvernement, qui est effectivement habile sur cette question-là, a été habile parce qu'il a pu éviter effectivement le recours aux urnes avec l'aval de tous les autres députés, parce qu'il savait très bien que si les députés, à travers de nouvelles législatives, retournaient aux urnes, ils perdraient, là, pour la majorité d'entre eux, leur poste au profit du Rassemblement national, très, très vraisemblablement. Et donc, on a assisté là, encore une fois, à un jeu de bonneteau qui était celui qui a été mené par, en effet, le Premier ministre qui, dans son habileté là, a malgré tout joué un peu les abus de confiance, parce qu'on savait, en plus on devinait très bien qu'à travers cette stabilité recherchée, c'était une stabilité qui allait feindre une sorte d'immobilisme, et cet immobilisme-là a été acquis au prix de 7 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. C'est ce qui a été à peu près accordé au Parti Socialiste à travers ce qui a été dit d'une super taxe pour les grandes entreprises, d'un ticket restaurant à 1 euro, etc. Et toute une série d'autres séries de mesures qui ne sont pas des mesures urgentes, si l'on s'accorde à dire que l'urgence était de réduire l'endettement de l'État et de réduire le périmètre de l'État-providence qui s'ouvre pour l'instant à tout un chacun et notamment à une immigration qui ne s'intègre plus. Donc tous ces problèmes n'ont pas été posés, tous ces problèmes restent posés et nous voyons là la grande mascarade politique qui est celle qui caractérise le macronisme depuis le début et qui qui arrive à son terme, me semble-t-il, parce que les Français ne peuvent pas comprendre ce qui se passe.
Quand on 49.3,
je n'ai pas d'expertise.
Non, mais je rebondis sur un des mots que vous avez utilisé. Vous avez dit le mot habileté. Thomas Bonnet, est-ce que Sébastien Lecornu a été plus habile que ses prédécesseurs, Michel Barnier, François Bayrou?
Alors, si on remet dans le contexte, Michel Barnier a été le premier Premier ministre à essuyer les plâtres, si je puis dire, de la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. C'était un contexte très particulier. Je pense qu'il n'avait pas assez ménager le Rassemblement National en oubliant sans doute un peu de discuter avec eux. François Bayrou a fait une opération kamikaze en demandant le vote de confiance qu'il n'aurait jamais dû demander, et c'est ce qui a provoqué son départ. De ce point de vue-là, oui, Sébastien Lecornu tient plus longtemps. Après, parler d'habileté, je ne sais pas la nature des discussions qu'il a avec les uns et les autres. Je sais qu'il compose avec une réalité politique très compliquée, très fragmentée. Si l'habileté, c'est d'augmenter les dépenses, c'est de taper dans la main des partis d'un parti socialiste qui a 66 députés, qui fait moins de 2% à l'élection présidentielle, je pense que là, on peut être nombreux à être habiles. Moi, la question que je soulève aussi, c'est celle du positionnement des LR. C'est-à-dire que les LR vont-ils s'abstenir? Vont-ils voter pour ce budget à quelques mois de l'élection présidentielle? S'ils espèrent avoir un avenir politique pour l'élection présidentielle, je pense qu'ils auraient intérêt à mesurer le moindre de leurs votes dans le cadre d'un budget qui est objectivement à l'opposé de ce qu'ils attendent. Alors, on a bien compris que tout le monde ne pourra pas avoir un gain de cause dans cette équation, mais attention quand même, parce que ça va leur revenir en effet boomerang lors de la campagne présidentielle.
Et on sera fixé dans les jours qui viennent, on aura l'occasion d'en redébattre. Je voudrais bien sûr qu'on parle des menaces de Donald Trump. Vous savez qu'il y a un sommet extraordinaire des dirigeants européens jeudi soir. Écoutez, Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne à la prospérité et à la stratégie industrielle, il a réagi aux pressions commerciales de Donald Trump et aux pressions de Donald Trump sur le Groenland. Il était sur France Inter ce matin.
Le Groenland ne sera jamais américain. Il faut que le chantage cesse. Je pense que l'administration américaine fait une erreur importante, c'est de tester les Européens sur deux principes, l'autodétermination des peuples et la souveraineté territoriale des États membres de l'Union européenne. Évidemment, nous avons un certain nombre de faiblesses aujourd'hui, des dépendances, notamment économique. Nous avons un certain nombre de faiblesses qui fait que certains pays ont des craintes sur des répercussions économiques et notamment sur des répercussions économiques commerciales, puisque nous sommes soumis à des chantages de droits de douane dorénavant. Oui. Mais nous devons tenir et la pression doit maintenant s'exercer du côté européen.
Alors, le temps de la riposte est-il venu? Est-ce qu'il faut activer ce qu'Emmanuel Macron, enfin ce n'est pas que lui, appelle le bazooka commercial? Allez, Thomas Bonnet.
Non, mais d'abord, d'un mot, ça m'a fait tiquer quand vous avez cité l'intégralité du titre de Stéphane Séjourné.
Donc, vice-président exécutif de la Commission européenne à la prospérité et à la stratégie industrielle.
Bon, la prospérité, pour l'instant, on n'en voit pas vraiment la couleur, nous, en tout cas en France. Alors, la stratégie industrielle, c'est intéressant parce qu'on constate précisément, à l'aune de ce qui se passe au Groenland, qu'on n'a absolument aucune souveraineté et aucune stratégie industrielle. Le Danemark, qui est donc détenteur du Groenland, s'équipe en équipement américain, l'Allemagne aussi.
Ça pourrait poser problème.
Et bien sûr, et lorsqu'on prête de l'argent à l'Ukraine pour mener sa guerre contre la Russie, on constate que là aussi, les Allemands poussent pour qu'ils achètent du matériel américain. En fait, il n'y a aucune stratégie, aucune souveraineté européenne, donc... Le découvrir alors que Donald Trump menace de prendre possession du Groenland, je trouve que c'est un peu tardif. Les mêmes qui nous promettaient la prospérité visiblement et la défense européenne, bon, en fait on a ni l'un ni l'autre.
Alors quelle posture adopter face à Donald Trump et à la pression qu'il met sur le Groenland, qu'il met aussi en exerçant ses droits de douane, je vais y arriver. Est-ce qu'il faut riposter? Certains pays sont plus prudents, certains pays européens.
Il faut examiner le rapport de force et le rapport de force n'est pas à l'avantage de l'Union européenne. Le rapport de force est très à l'avantage en effet de Donald Trump. D'abord parce qu'il a eu une vision sur le Groenland. On s'aperçoit maintenant aujourd'hui que le Groenland existe, qu'il appartient à l'Union européenne, mais en fait personne ne s'en occupait. Donc on peut faire crédit à Donald Trump d'avoir eu une vision d'avenir, qui est une vision d'avenir qui en plus répond à cette nouvelle révolution dite du bon sens qui a été lancée au cœur même des États-Unis, dans les think tanks conservateurs des États-Unis, qui disent qu'il faut maintenant davantage de pragmatisme et moins de grands principes.
Et donc, on laisse faire?
Mais c'est pas qu'on laisse faire. C'est en effet très désagréable de se faire humilier par les États-Unis, mais on ne va quand même pas faire la guerre et aux Russes et aux Chinois et aux États-Unis alors que nous ne pesons rien. Donc il y a maintenant, malgré tout, une sorte de réalisme diplomatique qui nous oblige à constater que si on peut envoyer 15 chasseurs alpins au Groenland, ce qui a été le cas de la France, on ne peut pas aller guerre plus loin. Et et que son bazooka, ce qu'il appelle son bazooka douanier, n'existera pas parce qu'il ne sera pas suivi par d'autres pays
c'est
européens.
C'est compliqué à adopter, en fait,
et
pour
puis,
faire ça.
C'est compliqué. Et puis surtout, vous l'avez, je crois, évoqué, la France a délégué totalement sa souveraineté numérique. La souveraineté numérique est une souveraineté numérique américaine. Ça veut dire que si les Américains appuient sur le bouton, vous n'avez plus d'Internet, vous n'avez plus d'iCloud, vous n'avez plus de rien, et vous pouvez bloquer une grande partie de l'Europe dans sa communication quotidienne et la communication des ménages. Donc je pense qu'on peut toujours affronter et faire du vent, mais je préférerais d'entendre Emmanuel Macron qui veut donc affronter Trump, qui veut affronter Poutine, le voir affronter les mollahs d'Iran. Or, je ne l'entends pas sur la crise iranienne et sur le calvaire, sur le carnage qui est en Iran, je ne l'entends pas dire qu'il veut y faire la guerre.
Thomas Bonnet.
On aimerait aussi, pour prolonger, que Emmanuel Macron ait la même détermination à protéger la souveraineté de notre pays, c'est-à-dire protéger le Groenland, c'est très bien. Évidemment, moi je ne suis pas de ceux qui acceptent sans broncher que les États-Unis s'emparent du Groenland. Évidemment que ça, c'est désagréable. J'aimerais parfois qu'on ait la même détermination, la même autorité à l'intérieur de nos frontières. Quant à la réponse, le fameux bazooka dont vous parliez, mm-hmm. Il est en train de se transformer en pistolet à eau parce que je viens de découvrir que la porte-parole de l'Union européenne dit finalement on va négocier parce qu'en effet tout le monde n'est pas aligné. Et en fait, c'est là le cœur du sujet, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas à 27 pays de l'Union européenne décider d'avoir une réponse franche. C'est trop difficile à manœuvrer. Là où les États-Unis, en une décision exécutive, peuvent prendre des décisions fortes, là où la Chine a un plan prévu sur des années, l'Union européenne doit être entendue et doit s'entendre à 27. Et c'est impossible dans les faits lorsqu'on affronte des crises pareilles.
Je crois que l'Union européenne ne s'en sortira pas indemne de cette crise de vérité, de cette révélation de
ce qu'est effectivement... Oui, mais l'Union européenne s'est aussi fait à la faveur des crises, vous le savez bien.
Oui, alors j'entends bien, mais je pense que cette crise-là ne va pas en sa faveur.
Allez, on reste ensemble, on parlera de la campagne municipale à la Courneuve. Rima Hassan et LFI battent le rappel du vote communautaire. On parlera aussi de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui reprend. On verra ce que vous en pensez, Yvan Rioufol, Thomas Bonnet dans Europe 1 Info.
Et avant la pause, je vous rappelle que Pascal Pro, vous le retrouvez pour deux rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord avec l'heure des pros en codiffusion avec CNews, c'est de 9h à 10h et ensuite pour Pascal Pro et vous, c'est chaque après-midi du lundi au vendredi de 16h à 18h pour débattre de l'actualité et vous donner la parole, chers auditeurs d'Europe 1. Le rendez-vous est pris 16h-18h, Pascal Pro et vous sur Europe 1.
13h-14h
Europe 1 Info. Demain soir, CNews et Europe 1 vous donnent rendez-vous de 21h à 22h pour La France en face.
Une heure d'entretien en toute liberté avec Robert Ménard.
Maire de Béziers, Robert Ménard répondra aux questions croisées de Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk.
La France en face, demain soir, de 21h à 22h,
en direct et en simultané,
sur CNews et Europe 1.
Vos déplacements professionnels ne devraient jamais être un casse-tête. Avec Selectour Affaires, le voyage d'affaires devient un levier de performance. Nous construisons avec vous une politique voyage sur mesure. Coût optimisé, empreinte carbone maîtrisée, sécurité et bien-être des voyageurs. Des consultants dédiés vous accompagnent à chaque étape, de la PME au grand compte. Nos solutions s'adaptent à vos besoins. Selectour Affaires, 50 ans d'expertise au service de vos déplacements professionnels. Rendez-vous sur selectour-affaires.com.
Et vous n'allez pas encore vos yeux.
Mais on est à la radio.
Bon, alors, vous n'allez pas encore vos oreilles.
Chez Poltronet Sofa, ce sont les super soldes en or, avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltronet Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltronet Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Lorsque vous voyagez avec Cathay Pacific, nous ne perdons jamais de vue la qualité de votre expérience. Vous n'aurez donc pas de compromis à faire lorsque vous profitez de nos offres. Bénéficiez de tarifs réduits sur nos destinations Asie et Australie. Les offres Cathay Pacific, allez à l'essentiel.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous vouliez me voir, François ?
Oui, Cerise, vous savez, j'ai des projets d'avenir et j'aimerais mettre de l'argent de côté, mais chez Groupama, c'est pas vraiment votre cœur de métier.
Détrompez-vous ! Si on sait assurer votre auto ou votre domicile, nos conseillers vous proposent aussi des solutions d'épargne adaptées à vos projets.
Ah vraiment, Cerise ?
Oui, en plus en ce moment, jusqu'à 200 euros sont offerts pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Offre soumise à condition, plus d'infos sur groupama.fr.
Je vois du soleil, madame là-dessous.
Oui, ben jusque là, une chance sur deux. Hein.
Je vois des économies, beaucoup d'économies.
Ah, mais oui, bien sûr, je viens de faire installer un carport solaire à Kenna. Et avec lui, je suis connecté pour faire des économies d'énergie.
Je vois.
Mais c'est tout vu, madame, c'est Akena. Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
13h, 14h, Europe 1 Info.
Europe 1 Info, la suite à 13h48 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs. Aujourd'hui, Yvan Rioufol et Thomas Bonnet.
On va commencer par la campagne des municipales. L'eurodéputée Rima Hassan et la militante Assa Traoré sont venues soutenir le candidat insoumis Ali Douahara sur un registre victimaire anti-flic. Écoutez, elle a dénoncé un état raciste.
Dans un état raciste qui relativise son histoire coloniale, voire qui la glorifie, son nom, la couleur de sa peau, c'est politique. Dans un état policier, manifester, s'exprimer, c'est politique. Vous êtes ici, chacun et chacune, des sujets politiques à part entière. Dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, et dans ce que vous subissez aussi, parfois malgré vous. Alors je sais que Retailleau et tous ses prédécesseurs n'ont eu de cesse de désigner les musulmans et les immigrés comme les tout premiers responsables de tous les malheurs de la France, souvent pour éviter de rendre des comptes sur les conséquences des politiques qu'ils avaient fait subir au pays. Alors, j'ai une chose à lui répondre ce soir à Retailleau. À bas, Retailleau.
Ah, donc, là, vous l'avez entendu, là, vivement critiqué, forcément, Bruno Retailleau. Je vous laisse réagir, Yvan Rioufol, puis Thomas Bonnet.
Ouais, et c'est une stratégie qui est une stratégie pensée de la part de la France Insoumise. C'est-à-dire qu'elle a été pensée par son institut, la police. C'est-à-dire qu'elle, effectivement, l'extrême gauche a en vision de changer la société et de faire se transformer la société actuelle en une société métissée, une société communautarisée, une société islamisée et une société racisée. Et là, ce que l'on voit apparaître, ce sont les pistes, effectivement, d'un affrontement qui serait un affrontement ethnique, un affrontement racial, puisque le procès qui est fait à la France, c'est d'être une France raciste, qui est portée par des minorités ethniques. Et donc, on est dans cet affrontement qui est un affrontement voulu de la part d'une partie du monde politique, et singulièrement de l'extrême gauche, de LFI, qui est un affrontement qui verrait, effectivement, les germes d'une sorte de guerre civile. Enfin, j'ai écrit il y a une quinzaine d'années un livre qui s'appelait « La guerre civile qui vient », qui essayait d'analyser précisément quels étaient les moteurs de l'affrontement de ce communautarisme, de ce multiculturalisme, qui est un multiconflictualisme, si je puis dire. Et naturellement, les faits me donnent hélas raison chaque jour un peu plus, et on est là dans l'élaboration plus idéologique, plus à long terme, de ce que pourrait être une France qui s'éparpille et qui se déteste. Elle se déteste déjà, d'ailleurs, pour
mais
une partie d'entre elles.
Vous parliez de la gauche en général, mais la gauche, le Parti Socialiste, Place Publique, ils en ont aussi pris pour leur grade, et je suis poli, au cours de ce meeting.
Oui, Thomas Bonnet. Un meeting qui, à mon avis, constitue un tournant quand on se retournera dans quelques années sur l'évolution de la gauche radicale. Ce meeting est un tournant à plusieurs égards. D'abord parce que Rima Hassan ne parle jamais de situation en France, sauf lorsqu'il s'agit d'élections municipales. Et c'est très intéressant de l'écouter, moi j'ai écouté son discours, et en effet, elle a théorisé très directement, très concrètement, le fait qu'il faille que désormais les représentés ressemblent à leurs représentants. Et ça, on est vraiment au cœur de la mutation de la France Insoumise. D'ailleurs, c'est très intéressant, ça se passe à la Courneuve. Ali Douahara, député de Seine-Saint-Denis, qui a lui-même été placé là par la France Insoumise, contre Raquel Garrido, qui était la députée de la France Insoumise auparavant,
elle
qui a été
purgée. D'ailleurs,
Et donc lui, il incarne la nouvelle génération, le nouveau visage de la France Insoumise. Et vous avez raison, elle a été visée, Raquel Garrido, ainsi que François Ruffin et Raphaël Glucksmann, pour des raisons différentes, mais qui incarnent la gauche du passé, d'une certaine manière, aux yeux de Rima Hassan, qui désormais va institutionnaliser, va pousser un agenda racialiste, une lecture ethnique, communautaire de la politique.
C'est clairement assumé. Oui.
L'exemple, effectivement, c'est assumé. L'exemple, c'est Zoran Mamdani à New York. C'est le modèle de Rima Hassan. Et donc, on va aller de plus en plus loin là-dedans. Les premières victimes vont être les purgées à venir de la France Insoumise. On a déjà eu Raquel Garrido, Alexis Corbière. Vous aurez bientôt d'autres personnalités qui vont être écartées parce que jugées comme pas incompatibles avec les électeurs qu'ils souhaitent séduire électoralement.
Yvan Rioufol.
Personne ne s'était ému d'entendre Madame Obono nous dire qu'elle était la seule noire à la fête de l'humanité, qui était une fête trop blanche. En revanche, il y avait eu un scandale d'entendre Richard Millet dire qu'il était un seul blanc. Je pense que c'était à la station des Halles, et là, on l'avait traité de fasciste. Donc, on voit bien qu'il y a une inversion aujourd'hui des valeurs, et que vous avez une sorte de suprémacisme raciste, racialiste, qui promeut d'ailleurs le noir par rapport au blanc, qui est en train de s'installer dans une sorte de racisme anti-blanc qui fait
en tout cas, il voudrait l'installer.
Tout le monde.
En tout cas, ils voudraient l'installer.
Ils voudraient l'installer, absolument.
Un mot quand même de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui va reprendre ses travaux, puisqu'il y a eu un mois de suspension, trêve de Noël, j'allais dire aussi. Ouais. Charles Alloncle cherche notamment à obtenir un certain nombre de documents. France Télévisions rechignerait à lui transmettre ces documents. Écoutez Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du Rassemblement National, qui a apporté son soutien à Charles Alloncle, qui est le rapporteur, hein, pour rappel de cette commission d'enquête. Il était au micro de Sonia Mabrouk, Sébastien Chenu, ce matin sur CNews et Europe 1.
De toute évidence, tout est fait pour compliquer la tâche de Charles Alloncle, député UTR, bien courageux, qui fait des auditions dans l'adversité la plus totale, y compris parfois de nos institutions. Charles Alloncle a bien du courage pour faire la lumière. On a l'impression que ça dérange de poser des questions à l'audiovisuel public, mais il va falloir s'y habituer. Parce que nous, on compte évidemment déranger l'audiovisuel public, le déranger jusqu'à le privatiser.
Alors, Thomas Bonnet, oui, on sourit, bah, c'est dit de manière assez claire, mais en tout cas, cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public déchaîne les passions. Hein.
Oui, et honnêtement, pour tout vous dire, je suis peut-être naïf, mais je ne pensais pas que ça prendrait ces proportions-là. Et en fait, la commission d'enquête, pour Charles Alloncle, c'est en train de devenir les 12 travaux d'Hercule. Il rencontre un nombre d'obstacles incroyables. Obstacles, vous l'avez dit, par la transmission, enfin, par plutôt la non-transmission de certains documents, par les tirs qu'il reçoit, les critiques dont il est l'objet. Je pense par exemple à Nagui, qui a mis en cause le député Charles Alloncle d'une manière vraiment abjecte, en disant que c'était peut-être ses origines égyptiennes qui le conduisaient à vouloir s'intéresser au travail de Nagui, ce qui est une accusation en racisme, en réalité, qui est absolument abjecte. Charles Alloncle a un tort, c'est qu'il est un membre d'un parti qui est allié au Rassemblement National. Et ça, aux yeux d'un certain nombre de militant, je dirais, de l'espace politique et médiatique, ça fait de lui quelqu'un qui n'a pas la voix au chapitre. Or, je trouve, d'un point de vue vraiment d'observateur de la vie politique, qu'il mène cette commission d'enquête de manière remarquable, en posant des questions, avec pugnacité, avec précision, il a travaillé les dossiers. C'est vrai que ça doit être dérangeant quand on est soumis à ce genre d'interrogation, mais il en va aussi de la bonne tenue de notre débat public. C'est de l'argent public et il est tout à fait normal et légitime que les Français obtiennent des réponses sur la manière avec laquelle cet argent est dépensé. Donc je trouve que les procès intentés à Charles Alloncle sont absolument délirants en comparaison avec son travail. Je crois qu'au contraire, ça renforce d'ailleurs sa posture. On lui a fait, ils lui font plus de publicité qu'il n'en demandait.
Yvan Rieufol.
J'ai très modestement théorisé la fin du système sous la pression des faits, des réalités, des évidences et de l'opinion, et notamment. Et là, je vois que l'ébranlement du service public de l'audiovisuel fait partie de cette fin d'un monde, de cette fin d'un système. C'est-à-dire qu'il y avait un monopole de l'information, un monopole moral, un monopole institutionnel de la part de ce monde-là qui donnait la vérité officielle et qui d'abord a été ébranlé par l'apparition des réseaux sociaux, naturellement, qui commencent à contourner cette parole-là. Et puis surtout, elle a été ébranlée par cette commission parlementaire qui est une commission qui demande des comptes. Jusqu'alors, l'audiovisuel public ne voulait pas demander des comptes à tout le monde, sauf à lui-même. Et là, vous avez une sorte de mouvement révolutionnaire qui oblige maintenant toutes ces grandes institutions, tout ce mandarinat à s'excuser presque d'avoir à ne pas avoir voulu entendre les griefs qui leur étaient reprochés et à vouloir s'expliquer, notamment sur les sommes dispendieuses concernant le service public de l'audiovisuel qui sont distribuées aux journalistes, tant mieux pour eux. On apprend notamment qu'ils avaient eu 14 semaines de congés payés, que le salaire moyen, je crois, est de 60, enfin, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 75 000 euros par an, ce qui est quand même une petite somme comparée à ce que gagne un journaliste en règle générale dans la presse écrite ou audiovisuelle, etc. Et donc aujourd'hui, il me semble que tout ce monde-là s'effondre et moi je l'applaudis.
Merci à tous les deux. On va suivre les travaux de cette commission d'enquête. Merci Thomas Bonnet, merci. Yvan Rieufol dans un instant. Omblin Roche, la musique cet après-midi sur Europe 1, les enfants d'Europe 1. Et moi je vous dis à demain, 13h. Très bon après-midi.
À demain, Clélie. C'était Clélie Mathias. Il est 13h56 sur Europe 1.
Jusqu'au 28 janvier, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France. Wow. Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde. Par exemple, Montréal, à partir de 429 euros au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 4 au 15 février 2026 et du 9 au 22 mars 2026.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein, elle n'est pas toujours fiable.
Là, t'as chaud, non? Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça. La mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Choisissez votre destination et nous irons ensemble par la mer.
N'attendez plus et embarquez avec CFC Croisière pour des vacances d'exception tout en profitant du calme et du confort d'un navire à taille humaine. Terre en vue avec CFC Croisière. En ce moment, cédez à l'offre l'appel du large, réservé pour vous, et le deuxième passager est à moins 50%. Offre soumise à condition. Plus d'informations au 0800 03 03 03, service et appel gratuit, et sur cfc-croisière.fr.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkéa.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur-mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkéa.fr. T'es où ?
Je me suis perdu. Trop d'offres ?
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 € de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.